passages se suivent, tous plus étonnants les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous arrivons donc à l'épisode de Nombre 21. Les serpents brûlants. Le serpent d'airain, comme les anciennes Bibles disaient, le serpent de bronze. Alors on va lire à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin des joncs, de la mer des joncs, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. On n'est pas étonné. Pourquoi en avez-vous fait monter, nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y avait point de pain, il n'y avait point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, il en mourut beaucoup, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple donc se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons mal parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par le serpent et regardé le serpent de bronze, il conservait la vie. Béni sois-tu pour ta parole encore, qu'elle nous guide sur ton chemin, qui est le seul bon, le seul droit. Amen. Alors, nous, on va dire, c'est toujours la même triste histoire. Hein, et les murmures, en tout cas c'est la dernière fois qu'on parle des murmures, on va parler d'autre chose la semaine prochaine, toujours dans le livre des Nombres. Mais ici, c'est quand même toujours la même triste histoire des murmures du peuple d'Israël dans le désert. Et cette fois, il est dit que l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants et ils mordaient le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple, un grand nombre. Alors, la première chose que je voudrais voir, c'est que la morsure des serpents amène certains à réaliser leur péché. Et il est dit donc au verset 7, « Nous avons péché ». Le peuple, une partie du peuple, en tout cas, vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. Nous avons mal parlé, nous avons mal parlé mal contre l'Éternel, contre le Seigneur, donc, et contre toi, Moïse. Prie l'Éternel qui retire de dessous nous les serpents. » Donc, c'est alors que la grâce de Dieu va se déployer. Voilà une bonne nouvelle. Quand Israël a murmuré, il a eu pour réponse la brûlure, la morsure des serpents. Et dès qu'Israël a confessé ses péchés, la grâce de Dieu lui a répondu. D'abord, le serpent était l'instrument, on va dire, de leur souffrance. Ensuite, il a été l'instrument de leur repentance et de leur rétablissement et de leur bénédiction, finalement. Et il est dit que l'Éternel, verset 8, dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu le regardera, vivra. » Donc l'image même de ce qui avait été, de ce qui avait fait le mal, le serpent, hein, devenait le canal par lequel la grâce de Dieu pouvait s'écouler librement sur les pécheurs, hein, blessés, hein, meurtris. Donc c'est une prophétie admirable de l'œuvre accompli par le Seigneur Jésus sur la croix. Et c'est notre Seigneur qui l'enseigne lui-même, hein, qu'il était l'accomplissement du serpent de bronze. Et on voit ça en Jean 3, 14, 15. On va le relire au moment de la fin de scène tout à l'heure. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une prophétie admirable de l'œuvre du Christ accomplie sur la croix. Le Seigneur Jésus est celui qui a porté sur lui notre péché et qui a détourné la colère de Dieu. Il a enduré la colère de Dieu contre le péché, notre péché. Alors il faut bien, et Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alors il faut, pour bien comprendre ça, il faut rappeler que toute l'humanité a senti, a vécu la morsure mortelle d'un serpent également. Notre péché nous a séparés de notre Dieu. Nous avons fait le mal contre Dieu. Le serpent du péché a laissé son poison mortel en chacun des enfants d'Adam, des fils et des filles d'Adam, avec pour conséquence la brûlure, la mort, hein, mais aussi la brûlure du péché avant la mort. Mais le Dieu de toute grâce a établi un remède puissant par Jésus, qui a été donc élevé, hein, sur la croix. Moïse avait fait un serpent à la ressemblance des serpents brûlants. Et donc c'était un serpent de bronze, un serpent de couleur rouge, hein, qui miroitait, hein, dans le ciel. De même, notre Sauveur a pris notre nature humaine, hein, et il est devenu homme, pleinement homme. Le serpent d'airain n'avait pas de venin, on est d'accord, c'était un morceau de bronze, hein. De même, le Christ n'avait pas de péché. Il a été tenté, dit la Bible, en toutes choses, sans commettre de péché. On peut aussi ajouter qu'on a élevé le serpent, hein, sur la perche, hein, comme un signal. De même, le Christ, portant nos péchés, a été élevé sur une croix, comme le signal de la sainteté de Dieu, mais aussi de son immense amour. Donc, il n'y avait qu'un remède, hein. Le serpent sur la perche était le seul remède. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul rédempteur, qu'un seul libérateur, le Seigneur Jésus-Christ, notre substitut. Et maintenant, donc, par le Saint-Esprit descendu du ciel, Dieu appelle tous ceux qui se savent mordus, hein, qui se savent pécheurs, qui se savent mordus par la morsure du péché, à regarder à Jésus pour avoir la vie, hein, et la paix. Alors, plusieurs choses sont dites sur la foi que nous allons reprendre maintenant. La foi est donc l'instrument, on pourrait dire, pour démarrer cette réflexion, on peut rappeler que la foi est l'instrument par lequel le pécheur saisit le salut offert par le Christ. L'Israélite blessé devait simplement regarder, le texte le dit bien, regarder pour vivre. Il devait regarder directement, il devait regarder, on va dire, exclusivement, hein, au remède que Dieu proposait. S'il refuse de regarder ou s'il néglige de regarder en remettant à plus tard, je le ferai plus tard, hein, il n'y a aucun avenir pour lui sinon la mort. Il doit fixer attentivement ses regards sur le remède proposé par Dieu. Et ce remède est élevé de telle façon que tous puissent le voir. Oh oui, où est-ce qu'il est? Oh, je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je ne suis pas coupable. Je n'ai pas pu le chercher, je n'ai pas trouvé. Il est là, hein, clairement, hein, visible, pour que tous puissent le voir, les grands, les petits, les riches, les pauvres, etc. Ceux qui sont loin, ceux qui sont près. Ça ne sert à rien de regarder. Alors, il y a plusieurs choses qui ne servaient à rien ce jour-là. D'abord, ça ne servait à rien de regarder avec foi. Oui, j'y crois, mais de regarder ailleurs. Oh, j'y crois, mais je ne vais pas regarder la perche, je vais regarder le rocher qui est de l'autre côté. Ça ne marchait pas. Hein. L'ordre porté, quiconque sera mordu, donc tous étaient concernés, et le regardera vivant, hein, pas regardera ailleurs. Hein. L'Israélite mordu, hein, s'il avait la foi, devait obéir à la parole que Dieu lui donnait. L'Israélite mordu n'avait absolument que le serpent de bronze, puisque celui-ci était l'unique remède prescrit par Dieu. Deuxième chose qui ne servait à rien, c'était de fixer Moïse. Au lieu de fixer la perche, moi je vais fixer Moïse. C'est le grand chef, hein, en pensant, tiens, il nous a sauvés jusqu'à présent, il nous sauvera encore bien une autre fois. S'il se confie en Moïse plutôt qu'à la parole de Dieu transmise, hein, par Moïse, serviteur, hein, de Dieu, eh bien, épuisés, ils allaient mourir les uns après les autres. Autre chose qui ne servait à rien, c'est de jouer à l'homme fort. Hein. Il n'y Hercule, tout ce qu'on veut, hein, Doldorak, voilà tout ce qu'on voit miroiter dans les livres et les bandes dessinées, et les dessins animés et les films. Ça ne sert à rien de jouer à l'homme fort, de prendre des bâtons pour tuer les serpents en déployant un effort gigantesque. Les serpents mordent sans répit. Ils font mourir même l'homme fort. Et enfin, ça ne servait à rien de porter secours aux mourants en s'occupant des autres, en négligeant de regarder soi-même au serpent. Il ne s'aperçoit pas ces gens qui font ainsi qu'ils meurent comme les autres. Donc seuls sont sauvés ceux qui se tenaient debout en regardant paisiblement, avec foi, au serpent de bronze et en remerciant Dieu pour son offre de salut et en appelant sans doute les autres à faire de même, tant qu'il était temps. Il en est de même aujourd'hui. L'homme pécheur est appelé simplement à regarder à Jésus. On ne lui dit pas de regarder aux hommes, on ne lui dit pas de regarder aux anges, etc., etc. Le pécheur est appelé à regarder exclusivement, seulement à Jésus, dont la mort et la résurrection forment le fondement éternel de toute paix, de toute espérance. Alors Dieu certifie, hier comme aujourd'hui, dans sa parole, la certitude de l'offre de salut qu'il fait. Aujourd'hui, il dit « Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle ». Voilà ce qu'il dit. Cela devrait satisfaire pleinement tout cœur inquiet, toute conscience travaillée par le péché. Dieu est satisfait par l'œuvre de Jésus. Nous devons donc l'être aussi. Soulever des doutes, c'est nier finalement la parole de Dieu. Notre certitude, c'est qu'au moment où le pécheur peut jeter un regard de foi sur Jésus, aujourd'hui encore, ses péchés disparaissent. La morsure du péché disparaît. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Tout péché. Alors on peut faire des objections, malgré tout. Quelqu'un pourrait soulever deux objections. La première, c'est comment la simple foi en Jésus peut-elle me sauver de mes péchés ? C'est rien un regard comme ça. Et puis ça suffit, ça suffirait. Comment est-ce possible ? On sait bien que ce genre de pensée d'incrédulité vient dans le cœur. Et aujourd'hui encore. Eh bien, les Israélites ont pu tenir le même langage. Ils ont pu dire à Moïse, comment la vue de ce serpent de bronze peut-il nous guérir de nos douloureuses plaies? Ça n'a aucun rapport. Mais quelle a pu être la réponse de Moïse? Mais tout simplement, regardez. On vous demande de regarder. C'est Dieu qui vous dit, Regardez seulement. Croyez la parole que je vous ai transmise de la part du Seigneur, de votre Dieu. Jetez seulement un faible regard sur ce serpent, un regard de mourant, et vous vivrez. Si vous ressentez en vous la douloureuse morsure du serpent, vous cesserez de raisonner. Vous croirez ce que je vous dis est vrai et vient de Dieu, parce que vous voudrez de tout votre être être sauvé, tellement vous ressentez la plaie du péché. Et c'est ainsi qu'aurait parlé Moïse, et c'est de cette manière aussi qu'on peut répondre, croyez seulement ce que Dieu dit. Qui croit au Fils à la vie éternelle, Jean 3, 36, pour rester dans le même chapitre. Alors une autre objection, c'est comment puis-je savoir que j'ai le droit de regarder ainsi à Jésus? Là aussi, c'est ce genre de question qui naît dans le cœur de l'homme à ce moment-là. J'ai été un grand pécheur, dira quelqu'un. Ne dois-je pas mener une vie plus sainte avant de pouvoir espérer qu'il me pardonne, avant d'oser me confier en lui et croire que mes péchés me sont pardonnés? Alors la réponse, certainement, c'est la suivante. Pour qui le serpent de bronze a-t-il été élevé? Qui a le droit de jeter les yeux sur lui afin d'être guéri? N'est-ce pas l'Israélite qui est en train de périr parce qu'il a été mordu après avoir péché? N'est-ce pas parce qu'il se meurt qu'il a le droit de regarder au serpent? N'est-ce pas pour lui seul que le serpent a été élevé? Moïse dit-il d'essayer de se guérir avant de le regarder? N'est-ce pas en le regardant qu'on trouve la guérison? Il en est de même aujourd'hui pour chacun de nous. Nos péchés même sont notre titre pour regarder vers Jésus et pour être sauvés. Alors, ce sont les pécheurs donc, qui ont besoin d'un sauveur. Ce sont les pécheurs qui ont besoin de Jésus. Ce sont eux qui ont droit en lui. Il est de leur côté, on va dire. C'est précisément pour eux qu'il a quitté la gloire. C'est pour eux qu'il a versé son sang. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient bons, pour ceux qui se croient justes. Regardez donc à lui parce que vous êtes un pécheur. Voilà ce que nous dit toute la parole de Dieu. Alors, une autre leçon sur la foi, c'est que la foi, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. On remarque que chacun devait regarder pour soi. Personne ne pouvait être sauvé par procuration. La vie était dans un regard, mais son regard à soi. Elle était dans un lien personnel, un contact direct et individuel avec le remède proposé par Dieu. Alors, on pourrait dire qu'il en est toujours de même aujourd'hui. Il nous faut avoir affaire à Jésus directement, pour nous-mêmes. L'Église ne peut pas nous sauver. Aucun homme ne peut nous sauver. Il faut le lien personnel avec le Sauveur. Sans cela, il n'y a pas de vie. Il est dit que quiconque regardait le serpent vivait. Celui qui regardait le serpent vivait. Tel était l'ordre de Dieu alors. Et c'est encore valable de nos jours, la foi est une chose individuelle, la repentance est une chose individuelle, le salut est une chose individuelle. Nous ne pouvons pas avoir la vie par la foi d'un autre, nous ne pouvons pas vivre sur la foi d'un autre. Et puis on voit bien aussi que la foi est un choix. La foi par définition est un choix. Sinon pourquoi y aurait-il cet appel que Dieu adresse ici au peuple ? Regardez, ayez foi. Pourquoi y aurait-il dans les évangiles également l'appel répété de Jésus à croire en lui, à se repentir et à croire en la bonne nouvelle et à le suivre ensuite? Pourquoi le cœur du message de la Bible serait-il une bonne nouvelle à recevoir par la foi? C'est-à-dire en décidant de faire confiance à Dieu, de tendre vers lui nos mains vides pour recevoir ce salut merveilleux qu'il a préparé pour nous de A à Z. Si on attend que la foi nous tombe dessus, on ne croira jamais. Croire, c'est choisir. Et c'est répondre à la parole de Dieu qui nous est adressée à chacun personnellement aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement un choix, et c'est là-dessus que je vais insister maintenant, ce n'est pas seulement un choix d'un jour, un choix initial, qu'on fait une fois pour toutes, et puis c'est fini. Sans cesse, chaque jour, il s'agit de choisir de suivre Jésus-Christ. Comme pour le mariage, il y a le grand choix du départ. Mais chaque jour, par des petits choix, le mari et l'épouse se consacrent, se refont le grand choix et se consacrent l'un à l'autre dans la lignée du grand choix. La foi est d'abord une question de confiance qui se joue dans la relation avec Dieu. La confiance, ça se vit au quotidien. Sans cesse, nous sommes appelés à renouveler notre confiance à Dieu. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir de le faire. Alors, on peut s'adresser particulièrement à ceux qui sont croyants depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, depuis longtemps même. Il faut intégrer dans notre quotidien des moments où nous pouvons exprimer notre choix renouvelé de suivre Jésus-Christ. C'est un des rôles de nos réunions, de nos rassemblements, de nos cultes. C'est aussi un des rôles de nos cultes quotidiens, de nos temps de qualité avec Dieu, dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. On dit souvent que c'est important de prier, c'est important de lire la Bible, tout ça est important pour se nourrir spirituellement. Et c'est vrai, mais pas seulement pour ça. On a aussi besoin de ces moments pour renouveler consciemment, intentionnellement, notre choix de suivre le Seigneur. Comment est-ce que je renouvelle personnellement mon choix de suivre Jésus-Christ? La foi est bel et bien un choix, et c'est même un choix sans cesse renouvelé de suivre le Christ. Et puis la foi est un choix de vie et de mort, ou de mort. La foi est un choix de vie ou de mort. C'est choisir de vivre avec Dieu, qui est la vie, ou de choisir sans lui, hein, et donc d'être dans la mort. Et ne pas choisir, c'est déjà choisir, hein, parce que c'est choisir de rester sans Dieu, de rester loin de la vie. Ce choix de la foi, ce choix de vivre avec Dieu se manifeste dans notre quotidien également, dans les grandes et dans les petites décisions de chaque jour. Si bien que d'une certaine façon, c'est tous les jours que nous sommes appelés également à choisir entre la vie et la mort. Alors, pas forcément littéralement, mais en tout cas spirituellement, en choisissant de rester attaché à Dieu qui est la source de la vie. Alors la question que le croyant doit se poser chaque jour, c'est donc, qu'est-ce que mon amour pour Dieu me dicte comme choix dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que mon amour pour Dieu me dicte comme choix dans ma vie pour aujourd'hui? Alors je vais récapituler ça dans la conclusion. Et je l'ai inscrite parce qu'il y a plusieurs choses. Et on en... ça s'imprime davantage dans notre esprit si on les voit devant nos yeux. Alors récapitulons cet enseignement tellement important. Donc premièrement, pas de salut sans confession. Confession de notre péché. J'ai péché, nous avons péché. Deuxièmement, pas de salut sans médiateur. Pour nous aujourd'hui, notre médiateur, c'est Jésus. Troisièmement, pas de salut sans substitut. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix, à notre place. Ce n'est pas un bout de bronze. C'est le Dieu vivant qui s'est sacrifié, qui a donné, qui est allé jusqu'au bout de son amour pour nous. On peut ajouter aussi que, quatrièmement, pas de salut sans un regard de foi, sans un regard personnel de foi. Et cinquièmement, la foi est un choix sans cesse renouvelé. Choisir la vie, c'est choisir de l'aimer, d'aimer Dieu, de suivre le chemin qu'il trace, d'obéir à ses commandements. C'est tout un programme de vie dans lequel on entre quotidiennement, chaque jour, petit à petit. C'est choisir de lui faire confiance aussi, chaque jour, de manière renouvelée. Après avoir commencé par la foi et la repentance, continuons chaque jour sur ce chemin de vie. Amen.